Ok, très bien.
Non, mais c'est vrai, hein, je peux pas tenir le fer à repasser et appuyer pour parler. Hein.
Bah vas-y, paysanne, on t'entend là si tu veux parler.
Non, mais je sais pas quoi dire, hein. J'ai regardé la vidéo là comme une bonne élève, puis finalement je me dis que j'aurais mieux fait de pas la regarder, que ça servait à rien. Je m'en serais très bien passé.
La vidéo 2.
Je suis trop pour.
La fameuse vidéo de Carlito là et
La vidéo maudite.
oui, voilà, paraît-il. Et évidemment, ça fait rire. Et évidemment, c'est hyper stressant. Enfin, moi, ça m'a stressé, ouais. Trop d'adrénaline.
D'ailleurs, je tiens à dire un truc, hein, et sans cynisme, c'est que on fait abstraction. Dans mon cas, moi, je fais abstraction 5 secondes de ma haine viscérale envers Macron et de mon irritation totale vis-à-vis de McFly et Carlito. C'est une vidéo qui est très bien faite.
Tu peux pas haïr un très bon acteur. Hein. Enfin, moi, à mon sens, c'est quand même difficile.
Moi, c'est parce que c'est extérieur, c'est externe en fait. C'est pas la vidéo en elle-même, c'est externe. Je dois avouer que totalement, à t'attendre, ils ont une très bonne équipe. Et Macron a réussi à paraître sympathique à mes yeux pendant un millième de seconde. C'est quand même ouf.
Oui, c'est horrible.
Je me suis senti sale.
C'est là que tu vois quand même la force de frappe.
C'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Victor Ferry, voilà, un pseudo-pédagogue de rhétorique. Je dis pseudo parce que pour moi, Viktorovitch est indétrônable. Attardedia, une question. Dani veut intervenir en vocal. Dani, vas-y, je t'en prie, excuse-moi.
Bon, est-ce que ça fonctionne?
Oui.
Ouais.
Bon, super, bah j'ai essayé de bien expliquer à l'écrit, bon, j'ai relu, c'est pas très explicite. Mais c'est une autocritique que je fais sur nous tous, hein, pas que sur ton analyse ou qui que ce soit, mais c'est une autocritique que je fais sur nous tous, en fait. Peut-être aussi que c'est très français, mais on se plaint beaucoup de tous les défauts des institutions, des politiques, etc. Mais au final, comme je disais, qui a dit qu'on devait être aidé plutôt que trompé, attaqué, asservi? Je pense qu'en fait, je ne sais pas bien comment l'expliquer sans que ça soit mal perçu, mais juste, je trouve qu'en tout cas en France, parce que je vois pas comment ça se passe à l'étranger, mais en tout cas en France, je trouve qu'on se prend pas bien en compte nous-mêmes. Je trouve qu'on se défend mal. Je trouve qu'on est beaucoup dans la critique, mais qu'en fait, dans les faits, on se défend très mal. Et au final, je me dis que finalement, je vais les appeler entre guillemets les prédateurs, ben, ils ont tout à fait raison de s'attaquer à nous parce qu'on se défend mal. On est un petit peu, je le dis souvent en ce moment, mais les brebis faibles du troupeau. Donc les loups s'attaquent,
Bah, je,
c'est normal.
justement, je tiens à réagir directement à ce que tu dis. Moi, justement, toute ma démonstration, c'était de dire que justement, le système éducatif fabriquait tout ça, tout ce que tu viens de dire. Que le fait que nous devions des brebis totalement râleuses, galeuses, tout ce que tu veux, c'était tout ce qui allait nous rester à la fin. Oui, effectivement, à la fin, la plupart d'entre nous qui allons parler politique, ça va ressembler au Michel bourré du PMU. C'est vrai. Je vais pas te contredire là-dessus. Le problème, c'est que je veux bien qu'on dise que la France est un pays de râleurs. Moi, j'ai tendance à dire de manière assez tragicomique que c'est tout ce qui nous reste, râler. Voilà. Mais au niveau du changement, faut aussi arrêter de déconner. Un changement politique, c'est l'affaire de plusieurs siècles. Moi, je suis peut-être naïf, mais je pense que À partir du moment où où y a énormément de gens aujourd'hui, parce qu'on ne se rend pas compte aussi de l'aspect révolutionnaire, notamment d'Internet, et du fait qu'on ait accès à une quantité astronomique d'informations critiques, de productions intellectuelles, une fois qu'on a envie d'y aller, hein, parce qu'effectivement, il faut une certaine curiosité malgré tout. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a plein de gens qui ont envie d'autre chose, pour dire les choses vulgairement, je pense que les alternatives se créeront naturellement. Et que peut-être qu'effectivement, peut-être qu'on n'est pas assez patient, peut-être qu'on n'est pas assez, qu'on prend pas assez notre mal en patience, mais après, comment dire? Je vais prendre l'exemple de la crise du Covid. Voilà, sans trop m'attarder dessus. Je ne vais pas m'attarder sur la gestion de la crise qui a été catastrophique, parce que voilà, sur Thinkerview, on nous a tartiné là-dessus. Je pense que ça a même saoulé certaines personnes de la communauté. Ce que je vais dire, c'est que je me suis rendu compte avec la crise du Covid que, entre guillemets, le monde d'avant m'allait. Que j'étais pas aussi, je dirais, imperméable. À la société, enfin, à la société avant Covid, quoi. Parce que, pour parler de ma vie sociale rapidement, parce que je pense qu'il faut la meilleure des honnêtetés, c'est de parler de soi-même. Moi, je suis solitaire et je suis musicien, voilà, je suis un peu inculturé, j'adore le cinéma, j'adore la musique, etc. Et donc, du coup, moi, avant la crise du Covid, j'allais beaucoup à des concerts, j'allais beaucoup au cinéma. Je me divertissais grâce au libéralisme, quoi, pour dire les choses de manière caricaturale. Et même si ça n'enlevait rien à mes problèmes psychologiques, il y avait en quelque sorte, je dirais, l'anesthésie momentanée, quoi, du film ou du concert. Quand la crise du Covid est arrivée, comment dire? L'explosion de dépression, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et je suis très, très porté sur les sujets de détresse psychologique. Comment expliquer l'explosion de dépression là, le fait que, au-delà des gens qui sont devenus pauvres, plein de gens sont devenus dépressifs? Eh bien, c'est parce que nous omettons de dire quelque chose sur notre société, c'est que le contrat social, c'est pas respecte la loi et tout se passera bien pour toi, c'est consomme et tout se passera bien pour toi. L'individu libéral, ce n'est pas celui qui obéit, ce qui dit j'obéis donc je suis. L'individu libéral, c'est celui qui dit je consomme donc je suis. Aujourd'hui, ce qui définit l'insertion sociale d'un individu dans la société, c'est son pouvoir d'achat. Et c'est du coup sa capacité du coup à se divertir via le monde culturel qui a été massacré durant la crise du Covid, qui s'est fait massacrer, qui s'est fait hacher menu. Et du coup, le fait de voir que nos politicards n'aient pas su gérer cette crise et qu'on ait été privé même des côtés positifs de cette société libérale, bah, fait que j'arrive pas à garder mon calme. Et du coup, je laisse la parole à Olifax, excuse-moi.
Bonsoir, messieurs, dames, vous m'entendez bien?
Parfaitement.
Nickel. Petite chose, le libéralisme, ce n'est pas forcément la consommation, hein. C'est deux choses assez différentes. C'est une éthique qui vient du capitalisme. Et les gens qui tombent en dépression, il n'y a pas le fait qu'ils ne peuvent plus consommer, il y a le fait qu'aussi le confinement et le Covid, c'est un changement drastique dans le mode de vie de plein d'individus. Et tout le monde n'est pas branché de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes lieux de vie. C'est résumer très simplement un problème très complexe, et généralement on s'attarde assez souvent à côté.
C'est bien pour ça que j'ai dit que je m'attardais pas trop, parce que sinon, vu qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole, j'ai pas envie de. J'en ai un peu marre de monopoliser la parole. À ta tardeur, Dia, vas-y, prends la parole.
Je sais pas si tu avais fini, Olifax.
C'est tout bon, je peux y aller, fais-toi plaisir.
Moi, je me demandais surtout, bon, ça c'est un constat de la situation actuelle, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Enfin, imaginons que on aille dans la situation qu'ils désirent, je vois pas trop ce qui peut arriver de plus que ce qu'on est déjà en train de subir, en fait. Je vois pas ce qu'ils peuvent trop nous priver de plus ou nous faire accepter comme absurdité, parce qu'on est déjà à un niveau assez tendu. Pour dire peu. Et enfin, moi, je vois que un effet inverse, une sorte de régression où peut-être on prend plus conscience et on change des choses parce qu'on est déjà à un stade avancé d'absurdité, en fait. Donc voilà, je voulais avoir votre avis.
Ben, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, Olifax, encore une fois, parce que bon, tu as totalement eu raison de dire ce que tu tenais à dire. Mais pourquoi j'ai vraiment insisté en parlant, parce que encore une fois, je parlais de moi. Hein, je suis pas représentatif de toute la société française, fort heureusement, putain. mais ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, ce que j'ai voulu dire dans la crise du Covid, c'est que même les aspects sympas de cette société qui est la nôtre. Ont été évincés par le Covid, c'était ce que je voulais dire, notamment la vie sociale, notamment sur le fait de voir des gens, par exemple, et le fait qu'on soit tous masqués désormais, par exemple. Pour réagir à Tardordia, excuse-moi, voilà, c'est une
Tu peux juste
défaillance.
dire Atta si ça vous
Ok.
chante, enfin toi ou les autres aussi, Atta,
Ouais, ok,
ça suffit.
merci, merci. Qu'est-ce qui pourrait nous faire accepter de plus? Oh, je sais pas. Moi, je veux juste que cette campagne vaccinale se termine. Et je me rends compte, oui, tu parles de régression, mais oui, je m'en rends compte. Il y a une grosse partie de moi qui veut revenir au monde d'avant, entre guillemets, quoi, pour grossir le trait. Parce que il y a le côté nounours, quoi, il y a le côté nostalgique. Et la nostalgie est toujours une forme d'idéalisation. Et c'est pas bien en soi, mais. Je me rends bien compte que moi, dans l'immédiat, tout ce que j'attends, moi personnellement, c'est le vaccin. Et si je suis en colère contre Macron pour réagir, par exemple, à ce que disait Dany sur le fait de râler, c'était le fait que le simple fait, justement, de revenir, pour utiliser caricaturalement les choses, à cette société ultra-capitaliste du monde d'avant, entre guillemets, où tout était en marche en permanence sans faire un mauvais jeu de mots avec le parti présidentiel, il n'y arrive même pas. C'est-à-dire que, évidemment, sur le plan boursier, les multimilliardaires ne se sont jamais autant fait de thunes. Ça, je le renie, ça, je vais pas le nier. Mais sur l'économie réelle, ils n'arrivent même pas à relancer cette espèce de machine effrénée dans laquelle on était avant le Covid. Et c'est ça, moi, que je trouve ouf, en fait. C'est que qu'on soit d'accord ou pas avec la politique économique, et moi, je suis pas d'accord avec le principe de la machine effrénée. Il n'arrive même pas à revenir là-dessus, en fait. On voit bien qu'ils sont en train de patauger dans la gadoue, que là, en plus, on est vers la fin du quinquennat, et on nage dans le flou le plus total. Et je ne sais pas du tout. Moi, ce qui me déprime, c'est ça. C'est que dans la collab avec McFly et Carlito, ce qui me déprime, c'est que ce soit ce gars-là, en fait, aussi. Ce gars-là qui nous fait nager dans le flou en permanence, qui fait que, effectivement, là, le couvre-feu est passé à 21h. Bon, pour ma part, je ne le respectais pas du tout, donc bon, voilà, enfin, je n'ai jamais vraiment respecté le couvre-feu, donc on s'en fout, dans ce qui me concerne. Mais là, effectivement, là, tout va réouvrir, les cinémas ont commencé à réouvrir. Mais là, on sent bien que si les mecs se retrouvent obligés de faire un quatrième confinement et que Macron ne le fait pas, on va à nouveau se retrouver dans une situation vachement compliquée. Pour vous dire oméga hasard, moi l'année prochaine je reprends la fac, je sais même pas si j'aurai une année universitaire normale. C'est ça qui est insupportable à travers la figure de Macron. Parce qu'on lui demande pas d'avoir réponse à tout. C'est juste que les solutions, elles existent. Les solutions, elles existent. C'est massivement vacciner. Voilà. Et c'est ça qui est dur dans le fait de voir Macron déconner avec McFly et Carlito. C'est que c'est le même gars qui déconne sur la vie de millions de gens. C'est ça, moi, que je trouve insupportable pour répondre à Dany en définitive. Olifax, vas-y, tu peux intervenir.
Pour le redémarrage économique, va peut-être falloir attendre déjà que la crise et les conséquences du Covid passent avant de demander un éventuel redémarrage.
Ah non, mais. Non, mais moi je demande pas ce que je trouve. Moi je suis pas idéologue là-dessus. Je dis juste que ce que je trouve dingue, c'est que ce gars-là, qui se dit totalement pour ce type de politique économique-là, croit vraiment qu'avec en injectant des milliards dans les multinationales et dans la poche des multimilliardaires, il va relancer l'économie.
Non, il sauvegarde pour le moment.
Ben ouais. Et du coup, en attendant, nous on en chie un max.
Oui, mais la question en fait est différemment. On pourrait se poser différemment, c'est-à-dire ton petit commerçant va monter ta boîte sur 5-6 ans avant de commencer vraiment à avoir son petit secteur d'activité, d'être rentable, et ainsi de suite. Si je demain, mettons, Airbus tombe, Safran tombe et autres, c'est 50, 70 ans, voire un siècle d'entreprise que tu perds. C'est-à-dire que, par exemple, demain, mettons, allez, on va dire. Thalès ferme, c'est 250 000 emplois en France qui sont impactés. Est-ce que du coup tu donnes pas du fric à ces gens-là? Moi, j'aurais envie de leur donner. Après, le problème, c'est que ces gens-là, ce n'est pas surveillé et eux en profitent pour s'en mettre plein les poches. Mais c'est un autre débat. Il y a Akwon qui voulait intervenir.
Et pour faire des PSE à gogo aussi, hein, on va pas se mentir. Akwan, vas-y, je t'en prie.
Alors, Akwan, ton micro est toujours mute. Faut que tu te démutes et t'as peut-être pas activé le push to talk. Ah, vas-y. Alors là, on t'entend pas. Ton micro s'active, mais on t'entend pas.
Moi, personnellement, je trouve que sur les derniers présidents français qu'on a eus, on voit une différence quand même entre Macron et les précédents, et notamment entre Macron et le précédent, et Macron et toute son équipe. Quand il parle, il bouge à peine, en fait. C'est-à-dire que on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que quand ils disent quelque chose, de toute façon, pour eux, c'est bon. L'impact, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'ils le disent. Ils n'ont pas besoin que ça semble sortir des tripes.
Totalement d'accord. D'ailleurs, c'est flippant, hein, les discours de Macron. C'est pour ça que ça faisait hyper bizarre d'ailleurs de le voir déconner chez McFly et Carlito. Akwan, t'inquiète pas. On a tout le temps. Tu vas y arriver. Après, Olifax, enfin, il me semblait que toi, tu te définissais comme libéral, si je me trompe, non?
Plus que ça, non.
D'accord, parce que je sais pas, peut-être que je m'en mêle les pinceaux. Dany, vas-y, je t'en prie.
Ben bah moi, décidément, je pense que ce soir, ça va être toujours sur le même thème. Là, juste une rapide intervention. C'est que, par exemple, là, tu disais que ça faisait flipper les discours de Macron, et je suis d'accord, hein. J'ai essayé de comprendre un peu, et là sur cette vidéo, moi j'en ai vu que 3-4 secondes, il a l'air détendu. Bah, il a l'air détendu parce que bah, ce qu'il dit c'est pas important, et du coup il peut se lâcher, il peut être naturel. Mais simplement aujourd'hui, en fait, t'es obligé de faire attention énormément à ce que tu dis. Mais même toi d'ailleurs, bon alors je t'explique pas, un mec comme Macron, aujourd'hui tu peux te faire tomber sur la tronche tout un pan de la société parce que t'as utilisé tel mot plutôt qu'un autre. Et en fait, bah, il est hyper dans le contrôle parce que bah, faut dire, voilà, faut être politiquement correct. Et en fait, pour ça, on est tous à la fois bourreaux et victimes de ça. Hein. Encore une fois, pour résumer, oui, on ne prend pas assez nos responsabilités, on se plaint beaucoup, mais en fait, on mouline tous dans le même sens. Voilà, celui qui dépasse, on lui coupe la tête.
Je pense que c'est vraiment surestimer Macron que de penser que le mec a peur pour, a peur pour sa peau. Je veux dire, effectivement, moi je me souviens de l'acte 4 des Gilets jaunes en décembre 2018 où il y avait un hélico qui était prêt sur le toit de l'Élysée. Mais je pense que, en fait, je pense qu'en fait, il sait tout simplement pas faire des discours, en fait. Voilà, que ça enfin, être un bon tribun, ça s'improvise pas, en fait. Et Macron est un très mauvais tribun, tout simplement. Je pense que c'est, il a pas peur. Il a pas peur de pas être dans le contrôle. Macron s'est mis à dos les trois quarts du pays, de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que On en est arrivé à un point où le monde remet en cause la politique du gouvernement. Voilà, on en est arrivé à...
Il va falloir sourcer, messieurs, là.
Ah, il va falloir sourcer, bah écoute.
Ah, des affirmations comme ça, oui.
Bah écoute, je t'en prie.
Si tu as quelques articles au niveau des stats, moi je serais bien curieux de les lire. Parce que les stats aujourd'hui et les sondages n'indiquent pas du tout le même ressenti.
Honnêtement, c'est surtout celui-là qui m'a fait assez halluciner sur le fait que maintenant le monde se mettait à avoir des positions politiques réellement affirmées, quoi. Alors que d'habitude, ils ont plutôt tendance à prêcher pour la neutralité.
Mais je vois
Voilà.
pas très bien en quoi ce sont des positions politiques affirmées que d'aller dans le sens
Ben, par
de
rapport au fait
l'apaisisme.
que, par rapport au fait de dire que le gouvernement Macron actuel, et c'est un truc c'est un truc qui est partagé quand même, c'est un sentiment qui est partagé en général dans le paysage médiatique, est en train de mettre, est en train de mettre, comment dirais-je, le feu aux poudres en quelque sorte. Et que en quelque sorte, en gros, enfin, ou de l'huile sur le feu, on prend l'expression qu'on veut. Et enfin, je veux dire, on se retrouve, en fait, on se retrouve dans des situations assez ubuesques où on prend l'exemple de l'affaire Benalla qui a été comment dirais-je inspectée par le Sénat, ou encore je sais plus quel projet de loi qui avait été rejeté par le Sénat récemment, si vous pouvez m'aider, hein. Voilà, enfin, on se retrouve dans des situations où le Sénat devient un contre-pouvoir, en fait.
Mais il l'a toujours été.
Oui, mais d'habitude, enfin, devient un contre-pouvoir contre, comment dirais-je? Putain, je sais pas comment dire. J'ai du mal à m'exprimer là pour le coup. Oui, il a toujours été un contre-pouvoir, mais jamais contre le pouvoir lui-même, je veux dire. C'est-à-dire par rapport à la Ve République, etc. C'est-à-dire sans vraiment remettre en cause la présidence de la Ve République, le principe même du pouvoir hypercentralisé. C'est-à-dire que même eux critiquent l'hypercentralisation du pouvoir macronien.
Je me permets d'intervenir, mais ils l'ont toujours fait.
Ben oui, c'est ce que je dis.
Et sous les précédents quinquennats aussi,
Bah.
le Sénat, justement, a une autre, n'est pas élu en même temps que l'Assemblée nationale, justement, pour permettre qu'il y ait une autre majorité et d'éviter d'avoir deux chambres avec les mêmes élus. Et en fait, le Sénat a toujours servi de ça, sous la cinquième, et peu importe le président. C'est pas du tout nouveau qu'il tape sur l'actuel. C'est
Bah,
généralement plutôt
ce
comme
qui est
un meilleur.
nouveau quand même, ce qui est nouveau, c'est l'intensité de la réactance quand même, globalement.
Pas plus que ça, non.
Bah, je suis pas d'accord. Bon, après, tant pis, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord.
Vous pouvez m'expliquer pourquoi on parle du Sénat sur sur ce rassemblement?
Non,
J'ai pas
mais
suivi.
c'était un exemple pour parler du quinquennat Macron et du fait qu'il y avait plein de lois qui avaient été rejetées par le Sénat. Voilà. Bon. Enfin bref, Olifax, je te fais un, comment dire, je te fais un trigger warning. Tout ce que je dis là, effectivement, j'aurai pas toutes les sources en tête. Tout ce que je vais dire à partir de maintenant en parlant politique. Comme ça, tu seras prévu et tu pourras m'invalider par défaut.
Eh bien, très bien.
Voilà.
En fait,
Par contre, si tu en as parlé. Excuse-moi, vas-y, paysanne.
non, non, vas-y.
J'allais dire juste, si tu en as qui te viennent en tête, n'hésite pas à les mettre. Qu'il n'y ait pas de quiproquo, tout simplement en discussion, hein, c'est pas que ce que tu dis est faux. C'est juste qu'on part sur la même base de discussion, qu'il n'y ait pas de quiproquo qui puisse se générer dans le débat.
Ok, pas de souci, vas-y, Paysanne. Paysanne.
Oui. En fait, je voulais revenir sur la vidéo Carlito et
Fais donc.
compagnie. En fait, j'ai pas trouvé que Macron, il était spécialement détendu. Moi, je l'ai pas
Il a
trouvé.
eu un seul fou, il a eu un seul moment de rire, en fait, un seul éclat de rire, en
Oui, il
fait.
est encore humain, peut-être.
Il a eu un seul éclat de rire, alors que McFly et Carlito, en général, quand ils invitent des stars en tout genre, bon là, évidemment, on est sur du people, donc Olifax, ça va pas te passionner.
Non, mais J'aime pas
Quand...
Tipol, mais il faut quand même reconnaître que voilà, il peut-être effectivement il devait se retenir de rigoler aussi, peut-être. Mais au final, il y avait le score quand même. C'est ça dont je voulais parler. Parce que c'était un concours d'anecdotes. Donc il y avait un score. Et finalement, j'ai trouvé que Macron passait pour un bon perdant quelque part. Voilà.
Et y a, moi, il y a un truc que j'ai trouvé chelou, mais là, on est dans la spéculation la plus totale. C'était légalisation, en fait, à la fin. Le fait que ça a été win-win, quoi. Le fameux en même temps, comme dirait l'autre, qui est très macronien. J'ai
Oui,
trouvé.
mais normalement, c'est le président de la République. Il devrait gagner. Hein.
Oui, je sais, mais.
Faire la face quelque part en ne gagnant pas.
Oui, mais y a, le fait que lui ait pu poser son gage et le fait que McFly et Carlito aient pu poser leur gage, en fait, ça fait un échange de bons procédés, quoi. Dany, vas-y,
Probablement,
je
j'ai
t'en
pas
prie.
trop suivi, mais oui.
Dany, je t'en prie, vas-y.
Ouais, donc je vais enfoncer le clou, bien sûr. En fait, moi, ce que je trouve ce que je trouve le plus grand scandale de cette histoire, finalement, c'est que ça fonctionne. C'est que ce genre de vidéo, ça a eu un bel impact, que apparemment le retour a été bon et que il a touché la cible qu'il voulait toucher. Et ça, pour moi, c'est ça l'alerte. C'est pas qu'il ait fait ça. Il l'a fait parce que c'était le bon moment de le faire. Il l'a fait parce qu'il savait que ça allait marcher. Et bravo, bravo à lui parce qu'effectivement, ça marche. Dans l'état actuel de notre société, dans l'état actuel de l'éclairage de notre population, de la curiosité de notre population, enfin d'une certaine partie de la population, eh ben ça a marché. Ben, il a raison de le faire. Moi, je trouve que l'inquiétant, c'est ça, c'est l'état de notre implication personnelle, individuelle et collective.
Bah oui, mais finalement, c'est du divertissement. On est dans une société qui a été dirigée vers de plus en plus de divertissement et de superficialité. Donc voilà. Je veux dire, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, hein. C'est un peu ce que tu disais par rapport au Covid, le fait que bah voilà, je peux plus aller au concert, je peux plus faire mes petites habitudes, mes petits trucs qui quotidiennement me permettent de bah finalement de vivre malgré tout. Et
De
ben
supporter la vie
finalement.
d'esclave.
Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est pas encore la vie que tu as choisie, que tu as décidé de mener toi envers et contre tous, ou envers et contre tout, ou peut-être pour le plaisir de tout le monde d'ailleurs. Mais en fait, bah, le Covid et le confinement, ça a enlevé tout ça. Donc c'est pour ça que ça a été extrêmement difficile, notamment quand on vit dans une ville, dans un appartement, etc. C'est extrêmement dur de subir ça. Voilà. C'est tout à fait logique, mais c'est parce qu'on est dans une société qu'on a voulu du divertissement. Et bien sûr, on oublie tout le reste. Et bien sûr, on est dans un confort permanent et au final, ben on en perd peut-être de la niaque.
Là, je vous remercie parce que non seulement on revient totalement dans le thème, mais en plus c'est totalement cohérent avec mon propos. Donc c'est cool, je me sens moins seul. Et oui, c'est totalement cohérent, mais d'ailleurs tout l'objet de mon texte c'était vraiment ça, expliquer la configuration sociale qui a permis que ce truc cartonne en fait. Parce que je suis totalement d'accord avec Dany. Je suis totalement d'accord avec Dany, c'est un, comment dire, c'est un coup de génie. Cette vidéo de la part de l'équipe de com de Macron, parce qu'il faut nommer les choses correctement. C'est pas Macron n'est pas une espèce de démiurge qui décide de tout et n'importe quoi. Il y a des gens derrière lui. Et en l'occurrence, le chef de com de Macron, franchement, il a tapé dans le mille. Et c'est aussi un coup de génie pour McFly et Carlito, parce qu'ils vont faire histoire, en fait, sur YouTube. Ils vont faire date. Ils vont faire date et du coup, tout le monde se souviendra d'eux d'autant plus. Et je pense qu'il y avait une forme de narcissisme aussi à ce niveau-là, de la part des deux compères. Et même si je fais de la psychologisation en l'occurrence, et c'est pas ouf comme procédé, mais ouais, c'est triste parce que c'est une vidéo extrêmement bien faite. Je l'ai dit, on fait abstraction de ces a priori négatifs. C'est une vidéo très très bien faite.
Bon, moi, ça m'a donné une vision de McFly et Carlito vraiment négative, dans le sens où finalement, ils n'ont
Mais c'est
aucun
totalement dans leur style,
positionnement
hein.
politique, hein, aucun positionnement politique, c'est vraiment enfin,
Mais
sans intérêt.
on n'oublie pas, paysanne, ce n'est pas de la politique, ça n'est que le président de la République, d'accord? Ça n'est pas de la politique. Allez, Dany qui nous pose comme question, à quoi ressemblerait votre vie rêvée, libre avec personnalité envers et contre tout? Ben moi, ma vie rêvée, moi, c'est pas compliqué, ça ressemble à une pub de Fleury Michon. c'est petite maison dans la campagne, piano de concert, parce que je suis pianiste. Vie matérielle confortable sans trop être fastueuse. Voilà, une bonne. Enfin, voilà, une épouse aimante. Et, enfin, moi, je suis. Enfin, vraiment, je suis pas intéressant du tout. Tiers de vie
Une
rêvée.
piqûre de moustique.
C'est ça. C'est presque limite. Je serai en salopette avec des bretelles et un pantalon de travail, une grosse moustache et une pipe et un béret. Voilà. Et toi, ce serait quoi ta vie rêvée, paysanne?
Moi, j'ai pas de rêve, hein. Franchement, je vis ce qui me plaît, et puis voilà. Ça va pas plus loin. Donc, quand quelque chose me plairait bien, mais que ce n'est pas possible de le faire, ben je contourne et je suis très heureuse. Voilà.
Ouais. Après, moi, je note que c'est juste mon fantasme. Hein. C'est pour ça, enfin, il parle de vie rêvée. Pour moi, c'est pas vraiment mon rêve au sens d'objectif, parce que bah, déjà, si j'arrive à vivre avec moi-même, j'aurais fait un grand pas. C'est ce qui s'appelle la thérapie. Hein. voilà. Et toi, Dany, à quoi ressemblerait ta vie rêvée?
Ouais, j'avais posé la question sans vraiment réfléchir à la réponse d'ailleurs. Non, mais je répondrai de façon pathétiquement philosophique. Bah, ma vie rêvée, c'est de construire ma vie rêvée tous les jours. C'est ce que j'essaye de faire. C'est pas toujours facile. Mais et je vais dire avec très peu de modestie que. Je vais dire avec très peu de modestie que j'essaie de me prendre en main et que je compte sur personne pour le faire à ma place. Voilà.
Est-ce que tu vas faire un challenge comme McFly et Carlito? Voilà. Je perds 20 kilos en 30 jours.
Bon, si je me fais des challenges, ce serait sûrement pas ça. Mais pourquoi pas?
Voilà. Non, mais c'était juste pour la blague. C'est prendre... Parce qu'aujourd'hui, se prendre en main sur les en... chez les influenceurs, on sait ce que ça veut dire. alors, Mété qui nous pose comme question qui peut sembler hors propos, voire indiscrète, et vous pouvez choisir d'y répondre ou pas, par conséquent, quelle est la moyenne d'âge des personnes présentes ce soir? Moi, je dois avoir 24 ans, voilà. 24 ans dans presque un mois. Voilà. Ah, c'est assez mixte, c'est sympa. Et toi, Olifax, quelle serait ta vie rêvée?
J'en ai pas tellement.
Bon. Aïe, aïe, aïe. Ouais, du coup, j'irai voir la vidéo de Melk de Fabien Olicard, même si je pense que... Enfin, moi, franchement, la vidéo de McFly et Carlito avec le président, ça me fait penser au cringe challenge. Essayer de ne pas cringe. Parce que... Bon, voilà quoi.
Ouais. Il en ressort que c'est effectivement un très très bon comédien. On le savait déjà, mais ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui décortique un petit peu toutes ses façons de faire.
Il est très bon, hein,
Il
Fabien.
est très bon. Ouais,
Il est très très bon.
petite intervention pour ceux qui veulent prendre la parole ou ceux qui n'ont pas de micro. Si vous avez une question comme un coin qui apparemment n'aura pas son micro, n'hésitez pas à les taper au clavier, on prendra plaisir à les lire pour les poser à votre place si ça vous convient.
Alors, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV?
Moi, pour rebondir un petit peu à la soirée, à la thématique de cette vidéo, dans le même ordre d'idée, j'étais assez effaré de voir des ministres, hein, il me semble, qui passent typiquement chez Hanouna. Dernière fois que j'ai vu, ils proposaient de donner du boulot à des gens. Donc pareil, peut-être que pour ces quelques personnes, c'est super et que ça fait plaisir, tant mieux pour eux, mais symboliquement, de voir que c'est dans des émissions de divertissement qu'on essaie de résoudre des problèmes sociaux et d'emploi, et que des ministres y aient pignon sur rue pour parler, alors que... Ben voilà, je trouve que c'est vraiment mélanger les torchons et les serviettes, et que quelque part, Hanouna soit un espoir d'insertion, c'est le comble. Enfin, moi, ça me... Gardons les choses à leur place, quoi. Ok, c'est le divertissement, tant mieux si ça plaît à des gens, mais qu'on y mette du coup de la politique et un marchepied pour des personnes au gouvernement, moi, ça me fait froid dans le dos, en fait. Je me dis, mais on est dans l'idiocratie, en fait. On n'est pas loin.
J'ai partagé un article qui est totalement dans le thème.
Mais quand tu les regardes, ils ont l'air idiots. Hein.
Mais d'ailleurs, c'est ça qui est souvent c'est ça que je trouve assez terrible avec, en tout cas, notre haute bourgeoisie, pour la nommer un peu vulgairement. C'est que, en fait, quand on regarde certains, tu te poses la question, mais ils l'ont piraté leur diplôme ou pas? Je veux dire, on se pose la question parce que le niveau d'exigence de la HEC, de l'ENA, etc., me semble-t-il, alors peut-être que je me fais des illusions, peut-être que c'est un diplôme de bac à sable, mais il ne me semble pas jusqu'aux dernières nouvelles. Je me pose vraiment la question des fois, en fait, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que les vieux politiques au crâne dégarni qu'on avait. Dans les quinquennats précédents, il y avait une forme de solennité qui faisait que, comme on pourrait dire aujourd'hui, comme les jeunes, ils se respectaient, entre guillemets. Et aujourd'hui, je sais pas, on regarde certaines prises de parole de Macron qui éclate de rire en disant aux journalistes qu'il a aucun mea culpa à faire sur sa gestion de la crise. Ou alors que lorsque l'on compare à Biden et qu'il est irrité, il parle carrément de poser une question psychologique aux journalistes en gloussant. Je me dis, mais il est en conseil de délégué ou il est vraiment en train de faire une conférence de presse? Je sais pas, moi je me pose la question des fois.
Bon, finalement, il y a une éminence grise derrière nos chers présidents français. Hein. Donc, eux, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent.
Ouais, mais en plus, ce que je trouve terrible, c'est que Macron, au départ, c'est un théâtreux. Quand il était ado, voilà, il était en école de théâtre, avec sa Dulcinée, d'ailleurs. Voilà. Il était en option théâtre, excusez-moi, avec sa Dulcinée, et ce que je trouve ouf, hein, vraiment, enfin, je faut que je vous trouve le reportage de France 3 sur l'enfance de Macron.
Non, il y a Mété qui pose une question. Ah. Mété, n'hésite pas à utiliser la petite signalétique qu'on a pour qu'on puisse identifier plus facilement tes questions.
Effectivement, je ne l'ai pas vu. Alors, pour questionner la personne qui a dit que la vidéo était très bien faite, penses-tu pas que Macron a oublié de laisser un message fédérateur pour la jeunesse? Personnellement, j'attendais au moins ça. Il est passé à côté de l'objectif principal de ce coup de communication. Non. Il n'est pas du tout passé à côté. Son but, c'était de s'intégrer parfaitement à l'univers de McFly et Carlito. Et c'est réussi. Cet univers d'inconséquence, cet univers d'impertinence, cet univers de divertissement pur. Il a parfaitement réussi. Parce que souvent, quand McFly et Carlito, ils essayent de faire des messages un peu conscientisants, c'est en fin de vidéo et ça prend un centième de la vidéo, quoi. Sur tout le package de fou rire et de blagues rigolotes, quoi. Enfin, rigolotes, chacun son humour, mais voilà. Non, il a totalement réussi son coup, je pense. Il a totalement réussi son coup. Il s'est parfait. Enfin, l'équipe de com a très bien joué à ce niveau-là. Il s'est totalement intégré à l'univers de McFly et Carlito.
Oui et non, parce que finalement, c'est lui qui est l'objet de toutes les attentions. C'est l'espèce d'icône sacrée avec laquelle, subitement, ils rentrent en contact. Ils sont invités à l'Élysée. C'est extraordinaire, etc. Donc, il y a quand même une distance.
Ah, mais ça, je suis d'accord.
C'est décentralisé, justement. Il a montré qu'il pouvait être proche du peuple, qu'il pouvait être quelqu'un de normal et de compréhensif, de tout ce que tu veux, en fait. Il s'est justement fait passer pour quelqu'un, ton pote, ton copain, ton ami, celui qui te veut du bien. Alors, on sait très bien qu'il fait tout l'inverse, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais moi, je trouve qu'il a complètement réussi son coup de com', justement. Il a ramassé. Ben, bon, après, je sais pas si c'est représentatif, mais dans les commentaires sur Twitter, t'en vois plein des jeunes qui disent « Ah ouais, il est vachement cool, ah ouais, moi je vote pour lui dès que j'ai mon permis de voter, ah ouais, oh putain, c'est trop sympa ce président, oh mieux que Obama, machin, que des trucs comme ça, il n'y a que ça, des commentaires comme ça, il y en a plein. » Alors je dis pas, je sais pas si ça peut représenter des millions de gens, des milliers ou des centaines, je n'en sais rien, mais en tout cas, il a complètement réussi, moi je trouve, oui, il s'est fait passer justement pour quelqu'un sympathique, qui sera toujours là pour toi, comme un pote presque, alors que non.
D'ailleurs, le plus terrible, c'est que dans la vidéo, les commentaires YouTube dithyrambiques pleuvent. Enfin, je veux dire, ça m'a. Moi, ça m'a. Enfin, je veux dire, j'ai vu le contraste entre la vidéo de l'annonce du clip des gestes barrières et la vidéo finale du concours des anecdotes. Et ça m'a fait froid dans le dos, effectivement.
Il va devoir mettre une photo d'eux sur un discours, pas forcément le 14 juillet, mais un discours important. Donc, ça c'est pour marquer aussi une sorte de complicité, tu vois. Il veut induire une complicité avec le peuple, avec les gens, avec les jeunes votants. Et enfin, c'est pas du tout raté, à mon avis. Hein.
Ah non, il a totalement absorbé la communauté de Fly Carlito. Hein. Enfin, je veux dire, parce que ceux qui voulaient partir à partir du moment où... Ah oui, non, mais pas que, bien sûr, parce que, voilà, et pas que, évidemment. Mais c'était l'objectif principal. L'objectif principal de la Macronie depuis les toutes premières collaborations de Gabriel Attal sur Twitch avec les influenceurs, c'est d'absorber les communautés de jeunes totalement dépolitisés, totalement éloignés de la politique. Voilà, et voilà, et donc du coup, c'est totalement gagné, hein. Je veux dire, c'est totalement gagné pour moi, hein. C'est, je veux dire, c'est triste, mais j'espère, je prie pour que ça ne fasse pas la différence pour l'année prochaine, mais j'ai la trouille, hein, honnêtement. Il lui faut pas grand-chose pour gagner Macron, hein. Dire, c'est pas un poutou Macron en matière de pourcentage d'intention de vote.
Après, je pense que ce qu'il a réussi à faire, c'est de faire en sorte que ce qu'il produit n'est pas vu comme politique. Là, tous les youtubeurs qu'ils sont en train de ramener, c'est des gens qui sont très loin de la politique. Donc, ils sont en train de rigoler, de parler d'environnement, de parler de jeunesse d'une façon qui ne semble pas très politisée. Et leur public, au fait, ils vont dire « Ouais, mais on n'est pas des gens politiques, nous ». Et du coup, ça va faire passer que Macron, toute sa bande à lui, bah les écouter, c'est pas écouter de la politique. Et ça, c'est vraiment un coup de masterclass.
Absolument. Absolument, absolument. Et c'est ça qu'il faut souligner. Ça a été horrible pour nous autres, entre guillemets, politisés et anti-macronistes. Nous autres, enfin, moi, en tout cas, ceux que j'identifie comme tels, peut-être que... On sait jamais, hein. Prudence dans mes propos. Ça a été terrible, hein, pour nous autres anti-macronistes acharnés du fait politique, de voir à quel point même les fidèles de McFly et Carlito tenaient à tout prix à dépolitiser leur démarche. Parce que bien évidemment que McFly et Carlito l'ont fait d'eux-mêmes, mais de voir que leurs fans les suivaient totalement là-dedans, ça m'a horrifié, honnêtement, hein. Ça m'a horrifié.
Moi, le moment de choc que j'ai eu, c'était en février 2020, quand Enjoy Phoenix, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près 4 millions de subscribers sur YouTube et plusieurs millions sur les différentes autres plateformes. Elle va voir Prune Poisson. Elle va faire presque une heure d'interview, lui donner une parole zéro critique. Et puis passer ça pour « Ah non, c'est pas pour la politique, moi j'aime bien la planète » et elle raconte des choses sympas. Donc j'expose ce qu'elle fait à mes abonnés. Là, c'était vraiment le déclic. C'est une stratégie, mais de fou, qu'ils implémentent et ça marche.
Bah justement, hein, la vraie stratégie de prise de pouvoir, est-ce que c'est justement de. Est-ce que ça serait pas justement de se faire passer pour ce qu'on n'est pas?
Ouais, une forme de caméléonisme. Totalement, hein. Totalement.
Bah, quand tu vois la manière par où il faut passer pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles.
Faut savoir un truc, les jeunes abstentionnistes, c'est une mine d'or en matière de potentiel électoral. Voilà, c'est une mine d'or. Et ça, la Macronie l'a parfaitement compris. Et en général, de toute façon, les abstentionnistes, en général, c'est une mine d'or, parce que quand on voit les proportions d'abstention dans les dernières élections, celui qui arrivera de toute façon à amarrer le plus d'abstentionnistes pourra faire la différence durant les prochaines présidentielles.
Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi cet intérêt pour les abstentionnistes, puisque avec les abstentionnistes, enfin, je veux dire, sans eux, ils arrivent parfaitement à remporter l'élection.
Et parce que
pour la prochaine élection, il n'en est pas si certain que ça. Hein.
Je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que essayer de reconquérir les abstentionnistes pour les prochaines élections, peu importe le parti d'où l'on vient, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur en matière d'intention de vote, je veux dire, pour les politicards. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que pourquoi c'est une mine d'or, les jeunes abstentionnistes qui suivent, qui sont plus abstentionnistes par défaut, quoi, qui suivent pas la politique et qui suivent les influenceurs qui, justement, ne traitent absolument pas de ça. C'est une mine d'or parce que le problème de Macron à l'heure actuelle, c'est qu'il sent bien qu'il est impopulaire, en tout cas. En tout cas, et c'est, sinon, il ne ferait pas son fameux tour de France aux quatre coins de la France pour aller rencontrer les Français. Et que tout l'intérêt de récupérer ces jeunes, c'est que Macron veut à tout prix retrouver cette image de président des jeunes qu'il avait au début du quinquennat. Et ça, c'est très important pour lui. C'est très important pour lui. Et tout l'intérêt d'aller pirater les communautés d'Enjoy Phoenix, de McFly et Carlito, etc., les consorts, bah c'est ça, c'est d'aller à nouveau faire de la gringue aux jeunes et dire « Regardez, je m'intéresse à vous ». Enfin, moi, je suis allé sur Twitter récemment, le service com d'Emmanuel Macron, parce que ça marque Emmanuel Macron, mais c'est le service com qui publie les tweets, qui dit « Avec 300 euros de passe culture, qu'est-ce que vous achèteriez ?» Bon, déjà, je tiens à dire un truc, c'est que le passe culture dans le programme d'Emmanuel Macron, c'était destiné aux 18-25 ans et il s'élevait à 500 euros. Là, le passe culture qu'il est en train de nous vendre, c'est 300 euros uniquement pour ceux de 18 ans, pour les jeunes de 18 ans. Donc, il n'arrive même pas à tenir ses promesses les plus dérisoires. Voilà. Donc, bon, ça, je trouve, c'est juste que je voulais le mentionner, hein, parce que bon, ça m'a effaré, ça m'a saoulé. Mais enfin bref, il se met carrément à faire des sondages comme un bon vieil influenceur du web, quoi. Il se met à faire des sondages sur Instagram, sur Twitter, enfin c'est l'équipe de com, encore une fois. Enfin, l'équipe de com de Macron se met à se comporter comme des influenceurs. Et ça marche. Ça marche parce que ils ont eu le temps de tâter le terrain, de rencontrer des influenceurs pour essayer de voir comment ça marchait, quoi.
Alors, il y a aussi un message qui est en train de passer doucement, mais d'une façon très répétitive et de plus en plus vocale. C'est Macron deuxième tour, ça veut dire que je vote forcément pour lui. C'est un message qui devient implicite, qui devient deuxième nature, qui dit ah bah oui, si ça arrive, ça sera Macron, hein, c'est pas, y a pas photo, quoi. Et c'est aussi une stratégie qui clairement développé ce qu'il raconte n'est pas du tout naturel. Je sais pas si quelqu'un l'a aussi remarqué ou j'imagine.
C'est du pur storytelling à l'américaine.
Pardon.
Non, vas-y, je t'en prie, Paysan.
Non, j'ai pas bien compris en fait en quoi c'est nouveau. Enfin, si c'est ça ce que tu voulais dire. La stratégie de dire, bah, voilà, si je suis face au Front National, de toute façon, vous voterez pour moi au second tour, ce qui n'est pas gagné d'ailleurs.
Petits vieux, ils votent par réflexe. Ils ont appris que fascisme, c'est mal. Donc, on leur dit Front National, leur premier réflexe, c'est Satan.
Oui, mais enfin, tu sais,
pour le coup, ils ont raison. Fascisme,
c'est pas
mal.
Comme ça non plus. Hein. Je veux dire, moi, fascisme, Satan, d'accord, pas voter pour Satan, mais pas voter pour Macron non plus. Hein, si tu te renseignes un peu, enfin, je veux dire.
Mais est-ce que tu es une femme de 75 ans dans une maison de retraite? Non.
Non, mais ma grand-mère qui a 97 ans, elle a compris. Alors peut-être qu'elle est plus intelligente qu'une femme de 77 ans, j'en sais rien, mais quand même, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ce discours de dire au deuxième tour si c'est Macron face au Front National, ça va pas tenir, là. Là, ça commence vraiment à s'effriter.
Ouais, je suis pas sûr.
Et chez les jeunes, franchement, les jeunes, ils en ont rien à faire, à mon avis. Hein. Enfin, ça me paraît... Enfin, je sais pas, mais...
Ah ben, le seul truc qui importe, c'est que plus une population vieillit, plus elle évolue lentement dans ses choix. Parce que les vieux ne se remettent pas en question de façon générale. Donc, tant que les vieux ont beaucoup d'argent, qu'ils ont peur du changement, qu'ils ont peur de perdre leur retraite, qu'ils ont peur de perdre leur capital accumulé, ils continueront à voter Macron, ne serait-ce que par peur de la révolution et de la guerre civile et du changement.
Et les ingénieurs qui ont la quarantaine, qui ont voté
Macron, mais ils sont moins nombreux.
Parce qu'ils pensaient qu'il était super et tout, à ton avis, est-ce qu'ils vont revoter Macron cette fois-ci? Probablement que oui. Non, je sais
mais
pas.
Eux, c'est les classes moyennes supérieures cosmopolites, ça c'est le cœur électoral de Macron. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La seule question, c'est est-ce que les petits vieux vont changer d'avis et est-ce que les jeunes veulent la révolution? Les jeunes ne veulent pas tant que ça la révolution, ils sont acquis aux causes de la morale qu'on leur prêche. Ils trouvent juste qu'ils n'ont pas assez d'argent, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Et après, les vieux, ils ont peur du changement. Donc il n'y aura rien qui change.
Moi, non, mais... qu'est-ce que oui, vas-y, Jort, excuse-moi.
Pardon, il y a un petit décalage. Parce que le changement que je voulais faire remarquer, c'est même pas un choix, c'est tellement implicite, c'est tellement nature. C'est ce changement de discours que je suis en train de remarquer qui est très subtil. C'est que c'est pas je vais choisir entre X et Y, c'est tellement naturel que ça sera X. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de réflexion. C'est ça le discours qu'ils sont en train de mettre là en place.
Oui, mais parce que les gens votent mécaniquement. Sauf s'il y a un truc comme Trump qui débarque et qui arrive à créer un engouement médiatique et une hystérie démente. Sauf s'il y a un personnage comme ça qui débarque, il y aura Macron qui sera élu. Parce que les gens voteront mécaniquement pour le candidat que les médias mettent en avant.
Vas-y, Dani.
Ouais, désolé, toujours pareil. Hein. Je viens me faire chier. Bon, je vous écoute là. En fait, bon, je veux pas être méchant, mais genre, j'ai l'impression qu'on refait des débats qu'on entend un peu partout. Hein. Tu écoutes la télé, tu vas entendre à peu près ce qu'on est en train de dire. Hein. L'analyse dans les détails de Macron, ça marche, ça marche pas. Oui, c'est bien, c'est pas bien. Et encore une fois, ben, y a rien qui est proposé. Donc, de notre derrière Discord, derrière notre ordinateur, on pourra se retrouver dans 10 ans et on sera encore là à commenter ce qui est en train de se faire du nouveau président, comme on a toujours commenté ce qu'ils faisaient les anciens, etc. Et je pense que ça doit faire à peu près 200 ans, même sûrement plus qu'on commente, on ne fait que commenter.
Moi, je suis pas d'accord. Les gens, l'influence, les gens vont à l'université, ils apprennent les nouvelles idéologies à la mode et ils appliquent cela. Le LGBTisme est arrivé, le féminisme est arrivé, l'antiracisme est arrivé. Tout ça, ça a maturé dans les universités, puis dans les discussions de petits bourgeois sur les bords
du muet. Vite fait, Greg, juste attends que les gens aient fini de parler si tu veux intervenir.
C'est du rap.
Pas comme ça. Je te remets la parole.
Je ne suis pas d'accord parce que...
de monter des associations ou des choses comme ça et d'agir tout simplement sur votre localité. Hein. C'est facile, hein, c'est possible.
Oui, mais après, ça, c'est joué en... Comment dire ça, c'est joué selon les règles du jeu. Enfin, je veux dire, c'est joué selon les règles du jeu. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, en ce qui me concerne, je pars toujours du principe que... C'est ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que je me sentais moins seul sur ma perception de la vidéo de McFly et Carlito. Je trouve qu'à partir du moment où on trouve des gens qui nous donnent l'impression qu'on n'est pas en train de devenir fou, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Je suis peut-être trop optimiste, mais je trouve qu'à partir du moment où on a le sentiment qu'il y a des choses qui résonnent entre nous, c'est qu'il y a des choses qui deviennent possibles, en fait. Parce que travailler dans une mairie, c'est encore un autre délire. C'est de l'administratif, c'est constamment, comment dire, lire des cahiers de... Oups, excusez-moi. Lire des cahiers de doléances. Enfin, bon, voilà, c'est ça s'improvise pas, devenir maire, contrairement à ce que tu... le discours que tu donnes, ça s'improvise pas, devenir maire. C'est toute une administration, et en plus, voilà, enfin... Il y en a qui vont être de très bons administrateurs, d'autres qui vont en être beaucoup moins. Moi, je sais que je pense pas que ça pourrait être mon truc. Après, Wingson, est-ce que tu souhaiterais prendre la parole ou t'as pas de micro? D'accord. Alors, je lis ton message. Sinon, créons une alternative ou un projet. Ah, je le dis souvent, mais le parti Finkerview, avec pas de représentant principal sauf pour l'élection, tous les interviewés sur, par exemple, le sujet de l'économie qui remplace le ministre de l'économie et sont dans une salle pour traiter les questions au lieu d'un seul qui parfois rend des décisions hâtives. Franchement, c'est une super idée. Hein. Enfin, c'est une super idée. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est une super idée. Voilà, je mets en plus. Alors Luto, je suis un jeune de cité né dans les 93, issu de la diversité, et pourtant je dois dire que je préférerais largement voter pour Le Pen que pour Macron, j'ai envie de dire, à choisir entre la peste et le choléra, je choisis l'accélérationnisme.
Est-ce que en fait, je peux m'opposer?
Jort, vas-y.
Désolé, mais l'accélérationnisme, je l'ai lu, Zizek en parle souvent. L'accélérationnisme, c'est bien sur papier, parce que oui, l'ultime rêve de gauche communiste va s'arriver bientôt et plus rapidement, viva la révolution. Mais entre-temps, il y a des gens qui vont souffrir. Et c'est probablement pas toi en premier. Généralement, les gens qui disent « ouais, l'accélérationnisme, c'est bien », ils oublient les gens qui vont payer le coût. Entre-temps.
Après, moi, le malaise réel que j'ai vis-à-vis de cette espèce de dualité Macron-Le Pen, c'est de voir à quel point ces derniers temps, le virage autoritaire pris par Macron depuis le début du mouvement des Gilets jaunes fait que j'arrive plus à différencier sa politique d'une éventuelle politique du Rassemblement national. Concrètement, je veux dire, c'est ça, moi, qui m'en ouf, c'est que en 2017, je pense qu'on aurait été tous capables de dire « ça c'est Macron, ça c'est Le Pen ». Mais quand un Darmanin arrive à te dire qu'il trouve Madame Le Pen molle sur la question de l'islam et qu'il se sent plus pertinent sur les questions autoritaires qu'elle, enfin, je sais plus quoi penser moi personnellement. Voilà. Ah oui, le tweet pour Goku. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais. N'empêche, c'était Camoulox, hein, l'intervention du groupe Ultra Vomit à la fin. À la fin de la vidéo de McFly et Carlito. Alors. Sinon, Luto, par rapport à l'accélérationnisme, ouais, je vais donner mon avis. Je suis partagé hein, sur une éventuelle élection de la Marine Bleue. je suis partagé parce que j'ai une grosse envie
que comme en Italie, concernant Salvini, notamment, le fait que, parce que Salvini a intégré le gouvernement de Mario Draghi, et du coup a adopté désormais un discours pro-Europe, alors que dans son mouvement de base, il avait un discours anti-Europe, je suis très curieux de voir un basculement similaire arriver avec Le Pen. Rien que pour l'expérience de pensée, je suis curieux. Après, est-ce que j'en ai envie? Je ne vais pas me positionner là-dessus.
C'est ce que j'allais dire en fait, si on va repartir encore dans l'analyse politique un peu. Mais bon, le Rassemblement national, ça y est, hein, il a viré, il est sur un terrain qui est le même que celui de Macron en fait, que ce soit sur le plan financier ou le plan européen.
Mais c'est ça qui est terrible en fait, c'est de se dire que maintenant, on pourrait limite appeler le Rassemblement national LREM bis quoi.
Mais est-ce que c'est terrible parce que tu te rends compte que voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'issue. Les Français sont des idéalistes, mais il y a un moment, il faut voir les choses en face. Bon, bah là, le rideau est tombé, tout simplement.
Oui, mais ça, c'est pour des gens qui sont passionnés par la politique, comme on est en train. Comme en tout cas, je trouve qu'on l'est ici. Dans le débat public, on continue d'avoir les mêmes anathèmes entre macronistes et lepéniste. Du oh là là, mais vous êtes des fascistes, nous on est du côté de la démocratie. Et je trouve que au niveau le débat public est toujours aussi délétère en fait à ce niveau-là. Enfin, du coup je lis Greg. Le virage autoritaire est la conséquence logique d'un empire qui doit maintenir coûte que coûte l'unité entre des peuples qui n'ont pas grand-chose en commun. Il y a deux types d'autoritarisme, l'un qui veut utiliser la force pour créer le paradis rapidement, l'autre qui veut utiliser la force pour maintenir un statu quo dont personne ne veut mais qui fait la prospérité de la classe dominante. Alors on est clairement sur la seconde catégorie. Hein. Wingsen, si on trouve de bonnes idées, on les note, on les propose, plus de nuances, plus d'avancées et moins de critiques dans le vent, si c'est ce qu'on reproche. Bah, écoute... Si tu as besoin de contribution, ben n'hésite pas. Du coup, je lis le tweet là qu'a partagé Jort. Jort, vas-y.
Oui, c'était juste pour dire que. Même s'ils font les beaux yeux pour plaire à cette masse de droite, disons, ils ne seront jamais assez de droite pour les gens qui veulent vraiment par conviction voter FN. Ce qu'ils vont réussir à choper, c'est les gens un petit peu... c'est pas bien les banlieues, mais je ne suis pas raciste quand même. Hein, et qui reste une masse non négligeable. Mais c'est marrant de les voir essayer et échouer très, très, très clairement à ce jeu-là de « je suis plus droite que FN ». Et par contre, c'est moins marrant de voir les conséquences, quoi.
Mais d'ailleurs, justement, j'ai partagé une vidéo et la conclusion de Serge Faubert, le présentateur d'Un Bourbon sinon rien, que j'aime beaucoup d'ailleurs et dont je vous conseille les émissions, et d'ailleurs aussi ces émissions du Petit Coup de Bourbon à l'époque du Média, parce que du coup il est allé sur Blast, c'était que, et je suis totalement d'accord avec lui, c'est que les gens pourraient préférer l'original à la copie, en fait, dans tous les cas, parce que le Rassemblement National a l'avantage historique par rapport à l'REM. L'image autoritaire, elle est historique chez le Rassemblement National. C'est pas le cas de l'REM. Le virage autoritaire de l'REM, il s'est passé durant le quinquennat. Il n'était pas, il n'est pas arrivé pendant la campagne présidentielle de 2017. Et du coup, c'est ça le gros désavantage de l'REM, très concrètement.
Clairement. Mais parler juste avant des gens qui vont pas voter Et je pense que c'est un aspect qui est super intéressant parce que pour la première fois de ma vie, je parlais de politique au boulot. Avec généralement des gens qui s'auto-positionnent, disons, de centre-droite, droite. Et c'est un sentiment de dégoût qu'il y a là. C'est des gens qui ne re se retrouvent plus socialement avec ce que raconte LREM. Par contre, ils se retrouvent, disons, théoriquement, économiquement. Et on a vu ça en Amérique, c'est il faut autant convaincre de gens, mais il faut aussi convaincre les autres de ne pas voter. Et ce sentiment de dégoût, je pense qu'il va jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup cette fois-ci. Ça veut dire que leur but, une de leurs stratégies, c'est de provoquer l'abstention.
Le gros souci dans notre constitution, c'est que l'abstention n'est pas prise en compte. Donc on peut pas dire, bah voilà, on veut pas de ces candidats, on en veut un autre.
Et moi honnêtement, hein, la configuration électorale actuelle fait que moi qui suis au départ un abstentionniste militant pour les mêmes raisons que Wingson, parce que je ne crois pas en la démocratie représentative ou parlementaire.
Laissez-vous terminer, hein. Excusez-moi, je coupe là, du coup, je fais exprès. Quand il y en a qui interviennent, laissez les autres terminer.
Ah, mais je croyais qu'elle avait terminé.
Oui, j'avais terminé.
Bah,
Désolée.
désolé,
Merci
désolé, mea
en avance.
culpa.
Merci.
Voilà.
De ma faute, pardon.
Aucun problème. Du coup, oui, ce que je disais, c'est que moi-même, qui étais un abstentionniste militant à peu près pour les mêmes raisons que Wingson, je me suis entendu dire que je n'avais envie de laisser aucune voix à Macron, même si c'est pour faire un vote pour un petit parti insignifiant. Le simple fait de me dire que constitutionnellement, à cause de notre système électoral, comme tu le disais, Payson, je pourrais lui laisser ne serait-ce qu'une seule voix me dégoûte maintenant. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Parce que bon, après bon, le droit de vote, je l'ai que depuis l'élection présidentielle de 2017. Donc bon, faut pas déconner non plus.
Puis il y a un autre aspect que moi je vois qui est bon, je pense que je dévie un peu du sujet. Hein. C'est qu'il y a toujours des sondages qui sont proposés, mais très longtemps à l'avance. Là, on a déjà des sondages pour une élection où on ne sait même pas encore qui va se présenter, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et ces sondages, on sait très bien qu'en fait, ils sont faits pour créer en fait le résultat du sondage, parce que les gens se font influencer par les sondages énormément. Et c'est pour ça que moi, tout le temps, souvent, en tout cas, sur les abstentionnistes, j'essaie de leur dire, mais vote pour n'importe qui, un petit, n'importe, ou même un gros, je m'en fous, mais pour qui, pour quelqu'un, juste pour faire mentir les sondages. Parce que le jour où les sondages, ils seront vraiment loin, tu vois, pas 1, 2% du sondage, tu vois, où les résultats sont vraiment loin des sondages, les gens comprendront enfin la supercherie et ces sondages, ils seront peut-être enfin interdits ou annulés, j'en sais rien, mais montrer que non, les sondages, c'est du pipeau. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui changerait les choses pour l'avenir. Et aussi, vite fait, je réponds à Super Jupa. Tout à l'heure, là, ce que tu as écrit, dans les petits candidats, il faut se renseigner sur leur programme, parce qu'il y en a certains qui veulent justement mettre beaucoup plus de démocratie ou mettre des référendums ou même changer le système de vote. Moi, je suis complètement pour le changer le système de vote ou des choses comme ça. Donc, je sais que moi-même, je ne me suis pas intéressé à tous les petits candidats, hein, mais c'est une chose qui serait à faire parce qu'au final, il y en a qui sont peut-être tout à fait aptes à faire ce qu'on aimerait, quoi. Donc, mais bon, allez, ça, c'était une aparté. Voilà.
Du coup, je viens de partager le petit laïus d'Astier sur les présidentielles qui m'a fait beaucoup rire parce que je trouve que, bon, au-delà du charisme du monsieur, même si je suis pas fan de Kaamelott, parce que je suis pas réceptif à l'humour, hein, rien contre la série en particulier, le passage notamment où il dit que
Les campagnes présidentielles devraient être muettes, en gros, que les candidats devraient que les médias devraient fermer leur gueule sur les campagnes présidentielles et qu'on devrait nous laisser un maximum d'impartialité sur le choix du candidat. Et c'est pas con du tout ce qu'il dit, je trouve. En tout cas, c'est pour ça que je le partage. Voilà. Parce que je trouve que le ronron médiatique sur les présidentielles fait beaucoup de mal au débat public et aux élections.
Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Neko, comme il y a un petit blanc. Neko disait il y a des partis qui veulent plus de démocratie, etc. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que le problème, c'est un manque d'unité et de projet commun? Ce n'est pas un manque de démocratie, parce que plus de démocratie, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur ce qu'ils veulent, ça ne sert à rien.
Attends, j'ai pas compris, je crois.
Ouais. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir des référendums d'initiative populaire s'il y a des gens qui, fondamentalement, sont en désaccord sur tout et n'ont pas une idée de la société commune qu'ils veulent construire. Enfin, qui n'ont pas de projet commun. Enfin, il y a différents projets qui sont radicalement opposés. Mais entre des nationalistes, entre des néo-communistes, entre des mondialistes, entre des LGBTistes, des traditionnalistes, il n'y a plus de vision commune d'une société à bâtir. Donc, plus de démocratie, ça, c'est pas la solution.
Mais le problème, démocratie, c'est comment réunir les gens. Ça reste toujours basé sur la majorité. Dans tous les cas, il y aura toujours des gens pas contents de ce que les autres auront choisi. Mais ça restera quand même la majorité qui voudra ça et pas ça.
Après, moi, il y a un truc qui me travaille beaucoup hein, sur la question de la démocratie directe. Thomas Wiesel avait été invité sur Thinkerview pour parler du modèle politique suisse, notamment sur les cantons et le fait que n'importe qui pouvait être élu dans les cantons, et que c'était voilà qu'il y avait un tirage au sort, etc., etc. Et je trouve que la démocratie sur le plan national est impossible parce que il y a des réalités locales, régionales, culturelles propres à chaque zone, on va dire, de la France, qui sont pas compatibles entre elles. Et par exemple, moi, le problème que j'ai avec le motif de base de la République française qui consiste à être unique et indivisible, une et indivisible, exactement, c'est le fait, ben, dans ces cas-là, de foutre aux chiottes la culture bretonne, de foutre aux chiottes la culture occitane, de foutre aux chiottes la culture basque, la culture corse, la culture niçoise au niveau italophone. La culture alsacienne, enfin bon voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. Enfin, au-delà de la question immigratoire, enfin qui concernerait les Maghrébins et les personnes issues d'Afrique noire, il y a une pluralité culturelle en France qui n'est pas reconnue par la République française constitutionnellement. Elle n'est pas reconnue, cette pluralité culturelle. Et pour moi, ça, c'est un problème fondamental de notre système politique. Et du coup, moi, je me pose la question du vraiment, est-ce qu'on devrait faire uniquement une démocratie nationale régalienne où tout se décide à la tête de l'État, ou est-ce qu'on ne devrait pas faire, je ne sais pas, moi, un truc plus fédéral où chaque zone gère ses propres réalités, en quelque sorte?
Personne ne parle, je vais juste prendre la parole pour dire que tu mets en avant le problème des régionalismes. Toute la France, la nation État français créée de par la République depuis 1789, c'est un projet qui est extrêmement autoritaire et qui a précisément vocation à détruire ces régionalismes. Et ça fonctionnait plutôt bien jusqu'aux années 90. À partir du moment où il y a eu la perte de la volonté d'avoir un nationalisme français et une France qui cherche à être expansionniste et à s'étendre. Et à ce moment-là, quand l'Union européenne domine, bah, chaque petite province de la France devient un nouveau micro-État avec la nouvelle vision où la France n'existe plus. Et donc, c'est aussi pour ça que cet intérêt, tu en as quelque chose à cirer de la culture corse ou bretonne. Il y a 30 ans en arrière, tu n'en avais strictement rien à cirer. Parce qu'il y avait encore une culture nationaliste française.
Alors ça, j'en sais absolument rien vu que je suis un jeune homme.
Attendez, je regarde hein, parce que je suis en train de rattraper du coup le texte. Voilà, pour terminer sur la question de la démocratie locale, parce que pour moi c'est comme ça qu'il faudrait la nommer. Je trouve que c'est vraiment celle qui est la plus intéressante, parce que je ne crois pas qu'on puisse tout gouverner à partir d'un seul, enfin, je veux dire, d'un seul noyau politique. Et tout le drame de la politique française, je trouve, c'est l'hypercentralisation parisienne. Et le fait que pour vous donner un exemple, au niveau de la gestion du couvre-feu, moi je voyais beaucoup les reportages des médias pour nous montrer les policiers qui contrôlaient les gens au niveau du couvre-feu. Moi je suis bordelais. Des policiers contrôlant des gens pour le couvre-feu, j'en ai quasiment pas vu. Genre, non, moi personnellement, j'en ai pas vu du tout, même. Alors peut-être que c'est parce que je suis pas véhiculé que je prends pas la rocade. Mais j'en ai pas vu du tout. Et c'est pour montrer, en fait, je dirais, un exemple de disparité politique entre une zone géographique et une autre zone géographique. C'est que dans les reportages, déjà, on va nous montrer énormément ce qui se passe à Paris. Bonne soirée, Olifax. Salut. On va nous montrer énormément ce qui se passe à Paris. Le gros problème aussi, c'est que la plupart des bâtiments, des QG, entre guillemets, des grands médias, se trouvent à Paris. D'accord. Ben, H-Kamen. D'accord, ok. Ben, ouais, mais après, le souci, c'est que je ne connais pas les statistiques de la police nationale parce que c'était eux qui contrôlaient. En tout cas, moi, j'en ai. Enfin, je vois des flics en général, mais pour le contrôle du couvre-feu, j'en ai absolument pas vu. Hein. Voilà, c'était en mode balèque, quoi. Et du coup, voilà, moi, je me pose réellement cette question
Si
de.
tu dis que t'en as pas vu, ça veut dire que tu étais dehors à l'heure du couvre-feu.
Ben oui, quand même.
C'est pas bien.
C'est pas bien du tout. Bah non, en plus c'était pour des trucs bidons, genre terminer ma laverie, terminer ma laverie, ou alors je me promenais quoi. C'était bidon. C'était pas du tout les reportages sur les rave parties clandestines.
Non, mais attends, t'as le droit de pas suivre le couvre-feu quand même, hein. T'es un être humain
Non
libre.
mais moi je tiens à dire un truc. Hein. Si je devais comparer le premier confinement au couvre-feu. Avec le recul, hein, le premier confinement m'a moins fait de mal psychologiquement que le couvre-feu. Hein.
Mais on a eu le couvre-feu avec le premier confinement, hein.
Non, mais oui,
Bah
mais
non,
ce
le
que je veux
premier
dire par
confinement, on ne
là.
pouvait pas sortir du tout, il n'y avait pas de couvre-feu.
Bah, nous, à Perpignan, à 20 h, on avait la sonnerie, des pompiers et c'était le couvre-feu.
La sonnerie de l'apocalypse.
Bah oui, c'était ça, hein. En fait, normalement,
Oh
c'était bien
putain,
ça,
le
c'est la sonnerie
stress!
de l'apocalypse.
Oh
Non,
le
c'est vrai, tous
stress!
les soirs à 20 h, il y avait la sonnerie des pompiers à fond les manettes et couvre-feu.
Est-ce que c'est pas toi qui l'aurais interprété comme couvre-feu? Parce qu'à 20 h, c'était l'applaudissement des infirmiers, etc. Je pense que c'était une sonnerie solidaire pour le personnel soignant.
Non,
Il n'y
non,
avait pas de
le maire de
couvre-feu au premier
Perpignan.
confinement, il n'y avait juste pas le droit de sortir du tout, de toute
Le
la
maire de
journée et toute la
Perpignan.
nuit. Donc il n'y avait pas de couvre-feu. Le premier, on dit.
Je pense que bah si, tu avais quand même le droit de sortir, ne serait-ce que pour travailler, si ton travail le nécessitait,
T'avais le droit de faire tes courses
à ton
et
compte,
avec un
oui.
papier.
Et ne serait-ce que pour aller acheter à manger, tout simplement, puisqu'on pouvait tout à fait aller acheter à manger tous les 2 jours si on le souhaitait. Mais en fait, le maire de Perpignan a décidé de faire le couvre-feu, tout à fait.
Nox, je pense qu'on va bientôt couper les bottes d'enregistrement. Est-ce que tu voudrais faire un petit mot de fin ou de conclusion pour les auditeurs du podcast qui écouteraient ça après ?
Ok, déjà vous remercier hein, parce que moi j'ai toujours un peu le trac avant de faire ces livres blancs. Vous remercier. Bon, déjà, je tenais à laisser quelques pensées vis-à-vis du thème de ce soir. Ce que je tiens à dire, c'est que je ne veux pas donner l'impression d'être fataliste. Je dresse un tableau très noir, effectivement, de la société française, notamment vis-à-vis du système éducatif. Mais j'essaye, malgré tout, peut-être fallacieusement, de me dire que si moi, j'arrive à pondre ce genre de raisonnement et à convaincre des gens avec ça, c'est que tout n'est pas perdu. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça veut juste dire qu'on n'est pas seul, tout simplement. Et je pense que c'est important de se souvenir que même dans la plus noire des nuits, il y a toujours des étoiles dans le ciel. Voilà. Merci à vous.
Super. Gros bisous à tous ceux qui nous écoutent. Merci, Nox. Et à la prochaine. Après, nous, on continue.